Shabbos Kodesh. Yidel lech prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh. Everyone with a role to play.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka Strasbourg pour ce nouveau rendez-vous du commentaire de la paracha de la semaine. Monsieur le grand rabbin est avec nous, il est revenu de là où il était la semaine dernière. Monsieur le grand rabbin, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour Jean, excellent.
Vous allez bien ?
Très très bien.
Alors on rappelle que nous lirons ce Shabbat la paracha Lech Lecha, l'allumage des bougies. Ce sera aujourd'hui à 18h21 et demain, la fin du Shabbat, à partir de 19h25. Les horaires sont uniquement valables pour Strasbourg et sa région. Juste avant, monsieur le grand rabbin, de parler de Paracha, on voudrait vous annoncer le Shabbat ensemble, le Shabbat mondial. Ce sera à partir du 20 octobre avec la Hafrachat Kala pour les femmes.
La Hafrachat Challah.
Challah, excusez-moi, pour ce oui, Challah. C'était un vrai lapsus. Et il y aura évidemment deux repas shabbatiques le vendredi 22 et le samedi 23. On en parlera plus en détail à la fin de cette émission. Et on voudrait évidemment dédier cette émission à toutes les personnes qui sont malades ou isolées, à qui on pense souvent. On va commencer, monsieur le grand rabbin, par évidemment. Comme chaque année, le résumé de la paracha.
Voilà, comme chaque semaine, effectivement, le résumé de cette paracha, qui, une fois de plus, est une paracha très très riche et un tournant dans l'histoire. On a beaucoup de tournants au début du Sefer Bereshit, du livre de Bereshit, dans l'histoire de ce qui est l'amorce, en réalité, du peuple juif, puisque cette paracha de Lech Lecha fait émerger, dès le début de la Sidra, dès les premiers versets de la Sidra, un personnage qui va être à la tête de ce que va devenir le futur peuple juif. Je parle bien sûr d'Avraham, qui s'appelle encore Avraham au début de la paracha, qui n'a pas encore changé de nom, et à qui Dieu va s'adresser dès le début de cette Sidra pour lui demander de quitter sa patrie, sa nation, de quitter sa terre natale pour se rendre vers un lieu inconnu. En l'occurrence, eh bien, nous le découvrirons très rapidement, la terre de Canaan, sur laquelle d'ailleurs Dieu lui fera la promesse, cette promesse extraordinaire qu'elle appartiendra à ses descendants. Et donc il y a en réalité ici une double promesse, à la fois la promesse de l'appartenance de cette terre au peuple juif, mais aussi la promesse d'une descendance qui va intervenir très rapidement dans cette paracha pour Avraham, qui, rappelons-le, marié à Sarah, était à ce moment-là stérile, lui comme sa femme, et donc dans l'incapacité de pouvoir se projeter, de pouvoir envisager une descendance. Et donc il y a en réalité ici une double promesse. Donc voilà comment débute notre paracha. Et très rapidement, eh bien, les épreuves vont s'enchaîner. Nous le savons par ailleurs, Avraham a été mise à l'épreuve à 10 reprises. Eh bien, un certain nombre d'épreuves vont s'enchaîner dans cette sidra. Après être arrivé en Eretz Israël, Avraham est confronté à l'épreuve de la famine. Il va donc devoir quitter la terre d'Israël pour se rendre en Égypte, où d'autres épreuves l'attendent, notamment avec sa femme et le risque de se voir quelque sorte confisquer sa femme, le risque également d'être tué. Il y aura la dispute aussi, qui est une épreuve, c'est la dispute avec son neveu Lot, oui, qui est également l'un de ses meilleurs élèves, l'un de ses véritables disciples, dans le sens le plus noble du terme, et qui entraînera une scission entre Avraham et Lot, Lot préférant le lucre vraiment l'enseignement spirituel, et Lot donc ira s'installer à Sodome, tandis qu'Avraham, lui, continuera son chemin avec toutes les personnes qui se trouvaient autour de lui et qui, grâce au mérite, bien sûr, de sa femme et de l'enseignement de sa femme, eh bien, Avraham avait réussi à entraîner autour de lui dans un véritable projet spirituel. On assistera par la suite à un épisode aussi assez incongru, qui est celui de la guerre, mais qui va nous dévoiler une nouvelle dimension de la personnalité d'Avraham, un Avraham courageux, un Avraham altruiste qui, malgré sa dispute avec Lot, ne va pas hésiter à se mettre en danger pour aller libérer Lot, capturé lors d'une guerre assez surprenante entre des rois, 4 et 5 rois. C'est ce dont il sera question donc dans cette paracha. Et nous aurons donc par la suite un épisode où Dieu va rassurer Avraham, le fameux épisode de l'alliance des morceaux, où au travers d'un rituel tout à fait incroyable, eh bien, Dieu va faire la promesse à Avraham. la promesse de la terre et la promesse également d'une descendance, avec déjà l'amorce de ce que sera l'esclavage en Égypte et les difficultés que le peuple, le futur peuple d'Israël devra passer pour accéder à l'autonomie et à l'indépendance. Et puis, à la fin de cette paracha, donc, nouvelle épreuve, bien sûr, l'incapacité d'avoir des enfants pour Abraham et Sarah, la naissance d'Ishmaël, avec cette nécessité pour Abraham, pour Sarah, de donner sa servante à Abraham, et puis la fin de la paracha qui se termine sur une note très très positive, changement de nom et donc changement de destin pour Abraham et Sarai, qui deviennent donc respectivement Abraham et Sarah, et la mitzvah de la Brit Mila, de la circoncision, qui est une nouvelle alliance. Et donc c'est sur cette note très très positive et sur cette perspective d'avenir radieux que se termine, que s'achève cette paracha
de l'Ertra. Beaucoup de questions, donc on va essayer de tous les évoquer, mais c'est très compliqué. Tout d'abord, on va commencer par Abraham. On connaît le père d'Abraham qui s'appelle Terah. Par contre, on ne dit rien sur la mère d'Abraham. C'est normal, c'est prévu, c'est comme ça.
Alors, vous le savez, la Torah ne parle jamais pour rien dire. En principe, lorsque la Torah parle, elle le fait systématiquement pour nous donner des indications précises qui ne sont pas forcément liées purement à la filiation, mais également à des rapports particuliers que les personnages peuvent entretenir entre eux. Or, Abraham, il a eu cette force de se distinguer d'une idéologie d'un père qui était extrêmement présent dans sa vie, mais pas uniquement en tant que géniteur, mais en tant que quelqu'un qui lui a inculqué une idéologie. Et une idéologie qui aurait pu totalement détruire Abraham de l'intérieur. Mmh. Or, la force d'Abraham, eh bien, elle a été d'avoir le courage de se détacher de cette idéologie qui était très toxique pour Abraham, de réfléchir de par lui-même, d'être capable d'observer le monde, d'observer la nature et de prendre son père à contre-pied tout en continuant à lui témoigner énormément de respect. D'ailleurs,
lui signaler que le père d'Abraham Terah était marchand d'idoles.
Exactement. Voilà. Et donc Abraham va avoir cette capacité, et on le sait lorsque on parle d'un Abraham qui est débordant de recette, donc c'est quelqu'un qui est sans doute déchiré par cette initiative qui est la sienne, parce qu'il aime son père, parce qu'il a énormément de respect pour lui, parce que ce personnage plein de bonté qu'est Abraham est naturellement poussé à respecter tout le monde, mais a fortiori à respecter son propre père, qui est une figure très très imposante. Mais malgré tout, Abraham comprend la nécessité idéologiquement de se séparer de ce père. Il va d'ailleurs le faire avec beaucoup de subtilité, mais je crois que c'est la raison pour laquelle on insiste surtout sur la dimension ici paternelle, parce que c'est lui. Et donc, alors la mère d'Abraham, effectivement, on connaît son nom parce qu'il est rapporté dans la Gemara. On ne connaît pas grand chose d'elle, mais on connaît son nom. Elle s'appelait Amatlaï, et donc c'est rapporté dans le traité de Baba Batra. Donc nous connaissons très peu de choses, si ce n'est son nom. Il y a également une ségoula qui consiste à prononcer son nom avant d'être confronté à un rendez-vous avec les plus hautes autorités, parfois d'un pays. C'est une ségoula qui est rapportée dans certains sfarim, mais au-delà de ce nom qui est rapporté dans la Gemara, eh bien, nous ne connaissons pas grand-chose, effectivement, de cette figure maternelle. Et j'insiste donc sur le fait que c'est véritablement cette figure paternelle, de par l'autorité morale et surtout cette idéologie extrêmement forte que portait Terah, qui a été un défi pour Abraham. Et c'est la raison sans doute pour laquelle la Torah insiste surtout sur la figure de Terah.
Alors, dès le début de la paracha, Dieu dit à Abraham, son nom à l'époque, de tout quitter, recommencer un nouveau départ, va pour toi hors de ton pays, de l'endroit où tu es né et de la maison de ton père Abraham. Alors, 75 ans, pourquoi cette formulation parfadier, au lieu de dire plus simplement, Abraham, rends-toi à Canaan avec toi et toute ta famille. Alors, pourquoi il y a une sorte de, comme ça, je dirais, de palier concernant cette demande de Dieu?
Vous avez parfaitement raison, Jean, il y a une sorte de suspense, un suspense presque insoutenable et dont on peut se questionner sur la pertinence. Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas directement au but, d'autant plus qu'a priori, cela n'enlève absolument rien à la difficulté, à l'épreuve, Avraham est ici confronté à un dilemme terrible, celui d'abandonner un père qui, même s'il ne partage pas son idéologie, eh bien, c'est un père qui est vieux, c'est un père qui est souffrant, c'est un père pour lequel Avraham a malgré tout de l'affection, de l'amour qu'un fils peut porter à son père sans forcément partager, comme je l'ai dit, ses idéologies. On peut haïr les idéologies de quelqu'un, on peut haïr sa manière d'être, mais avoir de l'affection pour une personne. Et il y a cette difficulté à un âge avancé pour Avraham de devoir tout quitter pour partir vers l'inconnu. Le fait d'indiquer à Avraham l'endroit dans lequel il était censé se rendre, a priori, n'enlève rien à cette difficulté, n'enlève rien à cette épreuve. Alors, je vous propose une réflexion du Oel Yaakov qui explique, en s'inspirant du commentaire du Midrash, qu'on voulait donner la possibilité à Avraham d'être récompensé pour chaque pas qui allait être fait. Alors, en quoi le fait de ne pas connaître la destination finale, eh bien, donne une récompense, un salaire supplémentaire par rapport à Avraham qui aurait été informé de la destination? En quoi le fait de connaître la destination, eh bien, ne nous donne pas la même récompense, la même teneur dans la récompense par rapport à chaque pas qui va être fait depuis le moment où Avraham donc quitte sa famille, sa patrie pour se rendre vers cette destination? Eh bien, lorsqu'on connaît déjà l'objectif, on est peut-être tellement absorbé par l'objectif, à savoir donc le lieu dans lequel on doit se rendre, qu'on en oublie peut-être tout ce qui va se passer dans ce chemin, c'est-à-dire qu'on est véritablement concentré sur la mission que l'on doit accomplir. On sait qu'il y a un lieu à atteindre, on sait que c'est une nouvelle vie qui va commencer, et peut-être que le fait de connaître déjà l'objectif final, eh bien, nous fait oublier et peut-être ne pas considérer vraiment à sa juste valeur tout le chemin qui doit être fait jusqu'à le moment où on va atteindre cet objectif. Le fait qu'Avraham ne sache pas encore où il doit se rendre, eh bien, l'a mis dans une autre perspective, dans sa manière de s'engager dans ce chemin vers Eretz Kenaan. Et après chaque pas qu'Avraham faisait, eh bien, il était dans cette optique où il se disait que peut-être c'est à cet endroit que Dieu voulait le conduire. Et donc, il y avait dans chaque pas ici, dans chaque étape qui a mené Avraham jusqu'en Eretz Kenaan, eh bien, une capacité finalement à se confronter à cette étape et à cette distance comme si véritablement, eh bien, elle portait en elle tout le choix divin, tout le choix d'Akadosh Baruch Hu.
Mais de le faire comme ça, en disant ton pays, ta maison, la maison de ton père, il aurait pu le dire plus simplement. Alors, c'est même si c'est un palier, alors, et que ça dû amener quelque chose.
Alors là, vous faites allusion à une autre question qui est celle, parce qu'il y a en réalité deux questions. Il y a le fait que Dieu n'ait pas indiqué immédiatement à Abraham la destination finale, elle arrête sa chair Areka vers cette terre que je t'indiquerai. Et il y a la manière dont Dieu s'est exprimé pour lui dire tu vas quitter, et la manière dont il a découpé la manière de dire les choses à Abraham. Eh bien, parce qu'il y a, je l'ai dit, en réalité plusieurs dimensions. Lorsqu'Abraham quitte sa terre, il ne quitte pas simplement un pays. Et un pays avec toutes ses valeurs, c'est une culture même si on ne la partage pas, eh bien, peut avoir également certains aspects positifs. Et en tout cas, lorsqu'on a été habitué à vivre dans une certaine culture, eh bien, il est parfois difficile de s'en détacher. Il y a des aspects positifs aussi, il n'y a pas que des aspects négatifs. Et il y a la dimension, on l'a dit, la dimension de la patrie, la dimension de la famille, c'est-à-dire que toutes ces choses-là en réalité sont à prendre à part. Elles représentaient des épreuves différentes pour Avraham. Ce n'est pas une seule épreuve, on ne peut pas tout mettre dans un même sac. Il y avait en réalité dans cette épreuve plusieurs épreuves, et c'est peut-être l'une des explications pour laquelle eh bien, Dieu a choisi de véritablement rappeler ces différentes épreuves et le courage dont Avraham devait bien faire preuve pour affronter ces différentes épreuves. Mais également, il y a aussi le fait de préparer peut-être Avraham psychologiquement en disant les choses de manière progressive pour qu'Avraham puisse intégrer ces choses, puisse les intégrer sereinement et se préparer à affronter ce qui est pour la plupart des commentateurs la première épreuve. Tout le monde n'est pas d'accord dans la manière de lister les 10 épreuves qui ont été celles d'Avraham, mais pour beaucoup, eh bien, cette épreuve de Lech Lecha est la première. Sachant que toutes ne figurent pas dans la Torah, il y a l'épreuve de la fournaise ardente, de Ur Kasdim, mais on n'a malheureusement pas beaucoup de temps pour développer tout cela.
Alors, on n'a évidemment pas beaucoup de temps pour tout développer, donc on va un peu sauter un certain nombre de choses. Et donc, il va à Canaan. Il y a une famine qui sévit dans le pays. Il décide d'aller en Égypte. Et quand on parle de voyage de l'Égypte d'Abraham et de sa femme Sarah, il y a quelque chose dans la Torah qui est très intéressant. C'est très rare. C'est que la Torah s'attarde sur le physique de sa femme Sarah en disant que sa femme était très belle. Pourquoi mentionner la beauté de Sarah ?
Alors effectivement, et surtout ce qui est très surprenant dans cette formulation, c'est la manière dont le verset s'exprime lorsqu'il nous dit que « inena yadati », comme si Abraham venait de faire le constat de cette beauté alors qu'il vit avec Sarah depuis un certain temps. Alors, je nous rappelle à quel point Abraham était pudique, à quel point la manière dont il entretenait sa relation dans son couple était une relation de pudeur, ce qui ne veut surtout pas dire qu'Abraham manifestait de la négligence pour Sarah et qu'il n'avait pas d'attirance pour elle, mais simplement que dans leur manière finalement de vivre les choses, il y avait quelque chose ici de très très sain. Voilà, on ne s'arrêtait pas uniquement au physique. Abraham avait construit quelque chose avec Sarah. C'est un couple qui était fondé sur des valeurs et pas uniquement sur une attirance physique. C'est très très important que ce premier couple, qui est vraiment symbolique, puisque c'est finalement le couple qui sera à la tête de tout ce que va donner le peuple d'Israël, et bien que ce couple-là puisse être construit sur des valeurs qui ne sont pas simplement liées à une attirance physique, mais à quelque chose de beaucoup plus profond. Donc c'est important de le rappeler. Et Abraham arrive maintenant dans un pays où les gens ne réfléchissent pas de la même manière. Et donc ce que le passouk ici vient nous dire, c'est qu'en réalité, il y a des gens qui justement ne sont pas capables de porter ces mêmes valeurs et que lorsqu'on se retrouve confronté à cette réalité, eh bien, il faut en tenir compte. Et donc Abraham se comprend que finalement, eh bien, cette beauté éclatante qui était celle de Sarah, qui est à la fois une beauté physique, mais aussi, on le voit, une certaine forme de grâce et une beauté au niveau de ses valeurs, de son intelligence. Bien sûr, Sarah, c'était un tout, mais c'est également une beauté physique, eh bien, qu'elle peut avoir des conséquences très, très importantes en Égypte. Et donc, je crois que c'est aussi une invitation, finalement, à réfléchir sur les valeurs que l'on souhaite nous-mêmes préserver et peut-être auquel on souhaite donner priorité à l'intérieur d'un couple. À nous dire que malheureusement, il y a des dangers dont il faut savoir parfois aussi se préserver.
Quitte à mentir ?
Alors effectivement, oui, quitte à mentir pour deux raisons. Premièrement, parce que Abraham se sentait véritablement en danger, donc il n'y avait pas véritablement de raison de se rallier ici à un miracle. Abraham était confronté ici à une réalité qui le mettait en danger physiquement. À partir du moment où je suis en danger de mort, eh bien, je peux effectivement mentir. Et la deuxième raison, c'est qu'il ne s'agit pas véritablement d'un miracle, c'est ce que proposent certains commentateurs. À partir du moment où Sarah était la nièce d'Abraham, elle était la fille de son frère, or, c'est dans le Midrash, eh bien, les petits-enfants sont également appelés les enfants, donc on peut considérer qu'en réalité, Sarah était la sœur d'Abraham. À partir du moment où Sarah est la petite-fille de Terach, mais qu'elle peut également être considérée comme la fille de Terach, eh bien, elle devient plus seulement la nièce d'Abraham, mais sa sœur. Donc c'est un mensonge déguisé, et d'après certains, c'est la manière dont Abraham a réussi à s'en sortir avec une grande élégance, même s'il avait le droit, dans ces circonstances, de mentir, eh bien, il l'a fait d'une manière qui, en réalité, n'était pas véritablement un mensonge.
Alors, on va citer un peu de paracha pour arriver au chapitre 15, le verset de 8 à 12, hein, c'est très, très précis. On parle du passage de l'alliance entre le berceau avec des oiseaux. Je n'ai pas très bien compris ce passage, ce grand rabbin. Vous pouvez m'aider ?
Alors, il y a cette alliance qui est un moment extrêmement important, puisque, donc, d'ailleurs, il faut rappeler que cette alliance, il n'y a pas forcément de chronologie dans cette paracha, et que cette alliance aurait pu avoir avant la révélation d'Akadosh Baruch Hu à Abraham, qui a eu lieu lorsqu'Abraham était âgé de 75 ans. Cette alliance aurait pu avoir lieu 5 ans avant. Donc toujours important de rappeler qu'il n'y a pas nécessairement de chronologie, en Mugdam ou Meuchar Batora. Et cette alliance, elle est importante, bien sûr, puisque c'est elle qui va venir rassurer Abraham, c'est elle qui va venir fixer et inscrire de manière pérenne cette promesse pour Abraham d'une descendance, cette promesse bien sûr d'une terre, mais également, comme je l'avais dit tout à l'heure, les contours déjà de ce que sera l'esclavage égyptien, puisque Dieu dit à Abraham, il lui dit, sache bien que ta descendance, eh bien, elle sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur, et ces personnes-là les asserviront et les opprimeront pendant 400 ans. Donc il y a déjà vraiment les contours de ce que va être l'histoire future du peuple d'Israël, mais avec la promesse, bien sûr, et c'est ça toute la perspective d'avenir pour le futur clan d'Israël, que ce pays sera par la suite jugé et que le clan d'Israël pourra sortir avec de grandes richesses. De la symbolique, bien sûr, avec ces morceaux coupés, eh bien, ce sont ces différentes difficultés auxquelles le clan d'Israël va être, et notamment ces différents exils auxquels le clan d'Israël va être confronté, qui finiront tous par être coupés, c'est-à-dire par s'incliner finalement et par tomber. Et les oiseaux que l'on ne coupe pas parce qu'ils représentent la symbolique du clan d'Israël, donc eux restent entiers, cette capacité à traverser l'histoire. Traverser l'histoire sans être affecté, mais il y aura des difficultés à affronter, il y aura des défis, il y aura des empires et des exils plus redoutables les uns que les autres, mais qui finiront finalement par tomber. Il y a un petit peu toutes ces symboliques qui sont réunies à l'intérieur de ce passage.
Il y a l'épisode de Hagar qui est donné comme épouse à Abraham. J'aurais deux questions, je vais m'en répondre plus vite parce qu'on a encore quelques thèmes à aborder. Pourquoi Agar et pas une autre servante ? Alors on sait que Abraham et Sarah en avaient beaucoup de servantes et de serviteurs, enfin de servantes en l'occurrence. Et deuxièmement, on voit finalement dans ce texte que c'est Dieu qui dit à Abraham : écoute ta femme. Ça veut dire que quand une femme dit quelque chose, il faut l'écouter et l'exécuter ?
Tout à fait. Alors. Pourquoi Agar ? Alors Agar est présentée comme la servante vraiment attitrée de Sarah. À part ça, nous le savons, Agar descend d'une lignée très très noble, puisqu'elle est la fille de Pharaon, et que c'est Pharaon lui-même, connaissant les valeurs du foyer d'Abraham et Sarah, qui a préféré que sa fille soit servante dans un foyer porteur de valeurs comme celui d'Abraham, plutôt qu'elle exerce princesse. Des fonctions peut-être plus importantes de princesse dans une civilisation dépravée, ou vraiment avec des mœurs qui n'étaient pas aussi convenables que ceux du foyer d'Abraham et Sarah. Et donc, je pense qu'il y a une double raison à ce choix, donc à la fois donc le fait qu'elle était la servante véritablement attitrée de Sarah, mais également avec une certaine forme de noblesse qui n'est pas étrangère, parce que lorsqu'il y a cette noblesse, il y a également des valeurs, et ces valeurs ne sont pas donc étrangères au choix d'Abraham. Il y a beaucoup d'ambiguïté, bien sûr, sur le personnage d'Agar, la manière dont Sarah va entretenir ses relations avec elle, le regard d'Agar qui va changer sur Sarah une fois qu'elle a été...
Une
fois qu'elle a pu avoir un enfant d'Abraham, qu'elle tombe enceinte, en tout cas déjà dans un premier temps, même avant même d'enfanter, mais on le voit par la suite, eh bien Agar reste malgré tout vu par la Torah comme un personnage extrêmement noble, qui a eu une attitude très très digne, notamment lorsqu'elle a été chassée. Et d'ailleurs, ce nom, lorsqu'on va la voir apparaître sous le nom de Ketura, plus tard dans la Torah, eh bien, ce nom de Ketura fait allusion à quelque chose de très très agréable. Donc c'est vrai qu'il y a une ambiguïté qui plane sur le personnage d'Agar, mais qui malgré tout est un personnage qui avait... indéniable des valeurs, et ce sont ces valeurs qui ont fait que ce choix s'est porté sur elle.
Quand Sarah décide de chasser Agar, la réaction d'Abraham est très bizarre aussi. Il dit « Fais ce que tu veux, c'est ta servante. » Il avait quand même quelque chose à prendre en compte, non ?
Abraham, encore une fois, vous le savez, les caractères d'Abraham et Sarah sont extrêmement différents. Tout ce qui faisait la beauté du couple d'Abraham et Sarah, c'est cet équilibre incroyable entre un Abraham qui est débordant de chesed et qui, toute sa vie, est mis à l'épreuve d'un chesed parfois un petit peu mal calibré. Cette incapacité qu'avait Abraham dans sa grande générosité à savoir se mettre des limites. Ah. Or, il faut savoir se mettre des limites. Il y a, d'ailleurs, c'est le Rambam qui nous l'apprend, dans toutes les midotes, dans tous les traits de caractère, il faut savoir systématiquement trouver le juste milieu, sauf pour deux traits de caractère qui sont l'orgueil et la colère, pour lesquels il faut vraiment être dans les extrêmes, c'est-à-dire de savoir vraiment rester dans le calme, ne pas du tout se mettre en colère. La colère est très mauvaise conseillère, et l'orgueil également être au maximum, on va dire, de l'humilité. Mais sinon, tous les traits de caractère, finalement, rayonnent à partir du moment où ils s'inscrivent dans un certain équilibre. Et il en va de même pour le chesed. Quelqu'un qui serait trop généreux pourrait se mettre en danger, il pourrait mettre son foyer en danger. Une trop grande sensibilité est également mauvaise conseillère. Or, Abraham a du mal un petit peu à tempérer ce trop-plein de chesed. Et c'est Sarah qui, avec peut-être une attitude plus rigoureuse, plus ferme, eh bien, va lui permettre de trouver cet équilibre. Et on va voir finalement, au travers du couple que forment Abraham et Sarah, eh bien, systématiquement, ce chesed d'Abraham qui est mis à l'épreuve de la fermeté de Sarah, mais également de sa capacité à voir très très loin. On le sait, Sarah a véritablement ce sixième sens, et elle a surtout une voix, elle a surtout un don prophétique extrêmement aiguisé, extrêmement profond.
Plus qu'Abraham ?
Alors ben, c'est ce que Dieu va lui dire, « Kolacher tomar lecha Sarah shema bekola », tout ce que Sarah te dit, écoute-la, parce qu'effectivement, elle a dans cette capacité finalement à voir, à sentir les choses, eh bien, une certaine grandeur qui fait que tu dois l'écouter, qu'elle est capable de prendre les bonnes décisions, et surtout qu'elle n'est peut-être pas guidée par ce trop-plein de chesed. Avraham a encore à ce stade-là un petit côté finalement ici affectif, de sensibilité exacerbée qui s'exprime, et cette sensibilité exacerbée n'est pas forcément bonne conseillère parfois. Il faut savoir analyser certaines situations avec du recul, de manière objective, et pas mettre sa subjectivité, sa sensibilité à l'intérieur de cette analyse, sans quoi eh bien, les décisions ne sont pas forcément éclairées.
Alors, Abraham devient Abraham.
Avraham devient Avraham.
Notre prénom commun à vous et à moi, monsieur le grand rabbin. Et Sarai devient Sarah. Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs? Parce que de nos jours, on a l'habitude de changer les noms. Quand une personne est malade, on lui change le nom, ça change un destin.
Bien sûr, changement de nom, changement de destin, on va le voir pour Avraham et Sarah. Nous allons le voir pour Avraham et Sarah, qui sont dans l'incapacité d'avoir des enfants. Il y a cette stérilité qui va se débloquer au moment où ils changent de nom. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau mazal, l'ajout de la lettre He à la fois pour Avraham et le remplacement de la lettre Yud par la lettre He pour Sarah vont littéralement changer le destin d'un couple qui était dans l'incapacité d'avoir une progéniture et qui, suite à ce changement, eh bien, vont pouvoir procréer. Sarah va tomber enceinte d'Itsra, qui naîtra dans la paracha de la semaine prochaine, par Parashat Vayera. Donc oui, il y a un changement
de
destin.
Donc de nos jours, c'est toujours possible.
C'est la raison pour laquelle, effectivement, lorsqu'une personne est très très malade, et bien sûr dans des circonstances tout à fait particulières, eh bien on procède à un changement de nom, en considérant que, oui, un nouveau nom, c'est un nouveau mazal, c'est un futur nouveau qui est possible. Et c'est ce qui se passe, en tout cas, pour les personnages d'Avraham et Sarai, donc de Avraham et Sarai, pardon, qui vont devenir Avraham et Sarah, ouais. Avec quelque chose de particulier pour Avraham, contrairement à Yaakov, qui verra également son nom transformé en Israël. C'est qu'Abraham, lui, va totalement perdre son premier nom et que nous n'avons plus le droit de l'appeler par son ancien nom. Yaakov, lui, va garder un petit peu les deux identités de Yaakov et d'Israël. Lui, Abraham, qui était limité de par son nom, puisque c'était le père d'un peuple, va devenir le père de tous les peuples. Il y a cette dimension universelle et c'est la raison pour laquelle on ne peut plus limiter Abraham. On ne peut pas revenir en arrière car Abraham a cette dimension universelle comme Sarai, qui n'est plus ma princesse, mais la princesse par excellence. Et donc, cette dimension universelle est très, très, très importante. On ne peut surtout pas la renier et on ne peut pas revenir en arrière.
Il nous reste une minute pour parler du dernier thème. À l'âge de 99 ans, Dieu demande à Abraham de se circoncire pour couper, dit-il, le chair dans l'excroissance, nous dit le texte. Plus simplement, monsieur Gravin, la Brit Mila, ça a évidemment une très grande importance.
Bien sûr, puisque Abraham va marquer dans sa chair et c'est encore une épreuve pour lui, pas simplement une épreuve physique, je le dis vraiment très rapidement, c'est aussi une épreuve psychologique. On l'a dit, Avraham, c'est ce chesed, vraiment parfois un petit peu exacerbé, et là aussi c'est un grand dilemme pour Avraham. Finalement, le fait de marquer cette fois-ci dans ma peau physiquement cette différence, est-ce que cela ne va pas me couper du monde? Moi qui cherche au contraire à rassembler autour de moi, moi qui cherche à montrer que je ne suis pas supérieur aux autres, que je ne cherche pas à les écraser, est-ce que le fait de marquer cette différence dans ma peau ne risque pas un petit peu d'entacher ce chesed que je cherche à faire avec les autres, cette espèce de rassemblement que je cherche à créer autour de moi? Et donc ça va faire appel à un grand courage d'Abraham, mais c'est nécessaire. Voilà, c'est véritablement cette alliance qu'Abraham va inscrire dans sa chair qui va également transformer son destin, puisque Abraham ne peut pas devenir encore le père d'Itsrak avant d'être circoncis, avant de porter cette alliance dans sa chair. Bien sûr, il y a beaucoup plus de choses à dire sur la Brit Mila, mais nous sommes limités par le temps.
Voilà.
J'invite quand même nos auditrices, nos auditeurs, comme vous l'avez fait, à consulter dans le Shabbat Shalom ou sur le site internet du CIBR ou au travers des différentes affiches qui sont disposées un petit peu partout dans les différentes choules strasbourgeoises, à participer à ce Shabbat mondial qui aura lieu la semaine prochaine. Donc un très grand programme, Afrashat Challah à partir donc de mercredi soir, à l'Esplanade pour les dames, jeudi soir pour les jeunes filles, et un programme donc avec repas shabbatique, vendredi soir, shabbat midi, il y en a pour les étudiants aussi, vraiment sans consulter le programme, un programme également Motsaï Shabbat avec une soirée dégustation, wine and cheese et musique. Ce sera vraiment très très sympathique. Voilà. Venez participer nombreux à ce Shabbat et surtout pour les repas. Dépêchez-vous de vous inscrire parce qu'il y a très peu de place, donc il ne faut vraiment pas tarder. Et vraiment dès aujourd'hui ou au maximum Motsaï Shabbat dimanche, pensez à vous inscrire.
Voilà, fin de l'émission. Malheureusement, on ne peut pas tout parler. On aurait besoin de des jours et des jours pour parler de cette paracha. Mais on vous invite là aussi à l'étudier dans les textes. Merci d'être avec nous. Merci à Lucas pour la réalisation technique. Et on va fêter nos 3 ans d'émission à partir de la semaine prochaine. On est très heureux d'être avec vous tous les vendredis à 13h30. Merci beaucoup. Shabbat shalom.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yidelech prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh.